Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 12 et la série concerne les esprits mauvais existent. Et ceci est la troisième partie puisqu'elle était beaucoup trop grande, trop longue et le titre c'était Griffes de velours. Troisième partie. Pourquoi étudier? Ma suggestion n'est pas une vie entourée de démons paranoïaques et mêlée de spectacles d'horreur permanents. L'Église n'a nul besoin d'un concert funèbre de sorciers ni de faussaires du bon et du don divin qui est le don véritable et qui parcourt les assemblées. Loin de moi d'avancer l'idée qu'il faille devenir un expert en satanisme, car le devoir d'une personne religieuse est de se concentrer sur le Christ et le culte à lui rendre. Il faut concentrer son esprit, notre esprit, ses yeux, son cœur sur Jésus-Christ et venir aux nouvelles, aimer et tout accomplir par et pour lui. Dieu appelle ainsi ses enfants à l'auto-examen de manière à se présenter en règle devant lui, tels des ouvriers sans honte et sans reproche, annonçant la sainte parole de vérité, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. L'effort est seul efficace, bien que beaucoup d'entre nous en soient venus à imaginer que l'étude systématique de la Sainte Bible est trop légaliste et vaguement antispirituelle, eh bien le livre saint, l'Évangile de Dieu est vivant et actif et plus percutant que n'importe quelle épée à double tranchant, perçant profondément la division de l'âme et de l'esprit à la jointure des ligaments et des os aptes au jugement des pensées et des intentions du cœur. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je le répète, l'effort est seul efficace, bien que beaucoup d'entre nous en soient venus à imaginer que l'étude systématique de la Sainte Bible est trop légaliste et vaguement antispirituelle. Voyez-vous, le livre saint, l'Évangile de Dieu, est vivant. C'est un évangile actif et plus percutant que n'importe quelle épée à double tranchant, perçant profondément la division de l'âme et de l'esprit à la jointure des ligaments et des os et apte au jugement des pensées et des intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. L'épée de l'esprit, Éphésiens chapitre 6 verset 17, est donc la seule offensive dans l'armure de Dieu qui est offerte à et pour nous. C'est une arme entre les mains chrétiennes lui permettant de causer d'immenses destructions au royaume de l'ennemi, de Satan. Ainsi, ce dernier tentera systématiquement d'attaquer la Sainte Parole et d'affaiblir la prise du croyant sur la poignée de l'épée. Il voudra nous désarmer, il voudra nous priver d'armes contre lui ou bien retourner la défense à son avantage. Quelle que soit la solidité de l'armure d'un soldat, privé de l'épée, il sera mis à terre et vaincu par son ennemi. Tout comportement affaiblissant ou diminuant l'autorité des termes mêmes de Dieu doit être suspect. Et c'est par ces phrases de révélation que l'on découvre le salut. La révélation n'entend pas être complète, mais tout autre nom qui serait en harmonie ni en accord avec la sainte parole si rigoureuse, soit elle n'est pas du Dieu très haut, n'est-ce pas, et qu'il faut donc la refuser. J'ai déjà entendu des frères et des sœurs affirmer au sein d'assemblées l'inutilité, ont-ils dit, des études systématiques, incluant la dévotion à la lecture de la Sainte Parole, arguant que le Très-Haut s'adresse toujours directement à eux, ils n'ont donc pas besoin de s'adonner à l'étude systématique et indiquant très exactement que ce qu'ils doivent faire. Voyez-vous, si vous vous rappelez vaguement de Jim Jones, qui est parti sur ces bases-là, et tous ses suivants, ils ne comparant pas ces dires à ceux des Saintes Écritures, non, non, ils ne les ont jamais comparés, ils n'ont pas fait comme certains qui sont vraiment sérieux et que nous connaissons, qui ont toujours pris avant tout la Sainte Bible comme étant le guide absolu. Alors ces gens-là n'ont pas pensé qu'il faudrait peut-être vérifier, et ainsi ils se sont autodétruits d'une façon abominable. Voyez-vous, on ne prend jamais trop de précautions lorsque quelqu'un nous demande de mettre sa théologie dans sa poche juste pour un instant. Et cela indique habituellement la suite, à savoir que cela est basé sur une expérience individuelle qui est sortie du contexte de la Sainte Parole et ne correspond absolument pas à la théologie. Et cela n'a nulle utilité, absolument aucune, car le savoir et la connaissance des Saintes Écritures n'émergent pas de l'ancien et curieux procédé d'absorption mysterium, on ne les atteint que par un dur labeur. Il faut vraiment de la discipline et de la volonté, ou en pressant, en quelque sorte, ce que je fais du reste ce matin, l'Esprit Saint. Voyez-vous, il est recommandé de mettre les esprits à l'épreuve. Très bien tout cela, mais comment faire? Eh bien, il faut s'assurer qu'une guérison ou qu'un miracle vienne vraiment de Dieu et que nos propres dons viennent du Seigneur. Ils ne sont pas, ainsi que son pouvoir, offerts en contre-preuve rassurante des contrefaçons démoniaques. Il n'est pas peu de pasteurs dans le refus de discuter de ces tromperies issues du malin, tout simplement par crainte. Non, voyez-vous, la conséquence est l'ignorance où beaucoup restent des projets et techniques diaboliques, d'où leur vulnérabilité à cette encontre. Naïfs et crédules sont donc les cibles toutes privilégiées de la langue acérée de ce fameux serpent. Donc, dans ce domaine, observons, chers amis, la plus grande prudence, pas forcément dans le sens où le voudrait Balaam. Il y a plusieurs tests de base indiqués par le Seigneur dans les textes saints qui sont destinés à nous aider à distinguer entre vrai et faux prophètes. Et cette tâche n'est pas toujours facile, puisque un faux prophète se dévoilera rarement de face. Il faut parmi tous ces tests en choisir un ou deux. Ils sont alors applicables aux signes et aux prodiges. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, un prophète était divinement inspiré et communiquait ainsi la volonté de Dieu à son peuple et leur dévoilait carrément l'avenir. Le terme prophète Nabi a pour sens déclarateur, annonceur, celui qui délivre une annonciation et qui répand la nouvelle et les annonciations divines. Les bergers et les juges d'Israël portèrent témoignage du Dieu authentique selon Isaïe, chapitre 45, verset 6. Il incomba à leur responsabilité d'admonestation du peuple pour ses péchés, l'appelant à se repentir, très important, à vivre droitement sans compter le jugement suprême pour leur faute et à leur destinée, on peut bien dire, à transmettre le message d'amour tout d'abord, et de compassion, et bien entendu, la compassion du Seigneur, et là je dis, qui est destinée aux âmes sensibles, à l'abandon de leurs fautes pour marcher dans la juste voie. Ça vaut la peine de revoir cette partie. Donc, il incombe, et on peut bien le dire, à leur responsabilité, l'admonestation du peuple pour ses péchés, tout d'abord, l'appelant à se repentir, très important, à vivre droitement sans compter le jugement suprême pour leurs fautes et à leur transmettre le message d'amour et de compassion du Seigneur qui est destiné aux âmes sensibles, à l'abandon de toutes leurs fautes, et cela pour pouvoir marcher dans la juste voie. Gloire à Dieu. Et le rappel prophétique ne révélait pas seulement le futur qui leur fut dévoilé par Dieu, c'était également une invitation à l'obéissance devant lui, selon Deutéronome chapitre 29, verset 29. L'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, annonce le but ultime de la prophétie pour le témoignage en Christ dans l'esprit de prophétie. Chers amis, quel Christ voulons-nous? Premièrement, le premier test pour un prophète ou un guérisseur, doit être doctrinal. Si j'ai dit pour un prophète et pour un guérisseur, ça veut dire ceux qui ont reçu le don de prophétie et de guérison, vous l'avez bien compris. Et donc, tout doit être parfaitement doctrinal. Que pense-t-il du Christ ? C'est très important de savoir cela. Le tient-il, le Nazaréen, pour le Fils absolu et unique du Très-Haut et le second personnage de la Trinité, Dieu incarné dans la chair, homme Dieu, qui périt à notre place, à ma place, sur la croix, pour le pardon des péchés, et qui a été né de la Vierge, et dont la résurrection physique a mis en exergue sa victoire contre le mal, contre la mort et contre Satan. Croit-il vraiment de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit, que le salut résulte de la foi, que c'est le don du Très-Haut, ne venant pas de vous, de nous, ni en conclusion de vos œuvres, surtout pas cela, et nul ne devrait donc mettre tout cela en avant. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Où a-t-il, au moins, subtilement accepté, on ne sait jamais, un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile, va savoir. Et quel évangile? Car si la réponse à ces deux questions n'est pas la bonne, eh bien croyez-moi, vous savez alors automatiquement quel est l'esprit que cet homme ou cette femme représente. Le Seigneur déclare avec précision dans Deutéronome chapitre 13, verset 15, que même si ce prophète ou fauteur de rêves opère de véritables miracles, vous amenant vers la foi en un autre Dieu, ne l'écoutez surtout pas, car le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve afin de savoir si vous, chers amis, l'aimez vraiment de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme et esprit. Donc, le Sauveur a dit que celui qui suit, qui me suit et qui garde tous mes commandements, celui qui est dans l'amour de moi et qui m'aime, eh bien c'est celui-là qui sera aimé du Père. Ça c'est certain, et je l'aimerai, et je me révélerai à lui. Saint Jean, chapitre 14, verset 21. Écoutez cela encore une fois. Le Sauveur, il a dit que celui qui me suit, donc le Sauveur, Jésus-Christ, et qui garde mes commandements, celui qui est dans l'amour de moi et qui m'aime, c'est celui-là, il sera aimé du Père, elle sera aimée du Père, et je l'aimerai, et je me révélerai à lui. Saint Jean 14, verset 21. Il ne suffit donc pas de prononcer en mots nos sentiments pour le Messie d'un côté, si nous ne mettons pas ces termes en application concrètement. Voyez-vous, dans le Deutéronome chapitre 18, le Seigneur avertit contre de faux prophètes à venir, pouvant se parer faussement du saint nom de Dieu et affirmant ainsi par le Seigneur, tel que l'on fait les vrais prophètes. Alors un autre test piquant que peu de ces prophètes d'aujourd'hui passeraient, c'est le suivant. Ça, on peut dire, c'est deuxièmement, ils doivent porter en eux pureté et perfection authentique. Avez-vous bien compris? Ils doivent porter en eux la pureté et la perfection authentique. Les tests sont donc eux aussi, ils sont applicables aux signes et aux prodiges. Et dans votre cœur, vous pouvez prononcer comment connaître les paroles du Seigneur. Lorsque un prophète s'énonce ou s'annonce en ce nom, si les phrases ne sont pas tout à fait justes ou véridiques, c'est qu'il n'est pas du Christ. Car un prophète est-il présomptueux, présomptueux dans ses dires, n'ayant crainte de lui? Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Ces mages d'aujourd'hui, peut-être l'avez-vous noté, ont une tendance à l'inefficacité. Les défaites de Jan Dixon sont stupéfiantes. C'est insuffisant pour se convaincre que l'on traverse une passe noire, une période sans, ou bien se rattacher à l'excuse que vos prédictions étaient justes, mais que celui auquel elles s'appliquaient ne les vérifia pas. Dieu sait ce qui peut nous arriver et il a le choix de nous en avertir ou pas. L'avertissement est parfois très évident. Donc, il faut tenir compte de ce fait dans les réunions charismatiques. Rien ne sert d'ajouter « Cet événement provient sans doute d'en haut, à ma plus grande surprise, et je le ressens en moi. » Cependant, nos sentiments ne sont pas toujours une garantie ultime et absolue. Les annonciateurs prophétiques de l'Ancien Testament parlaient haut et fort au nom du Tout-Puissant, révélant sa volonté et prédisant le futur. Ce don d'annonciation aidant à renforcer et confirmer la foi chrétienne, à dévoiler les secrets de l'âme à telle fin que l'agnostique prenne conscience de l'amour divin et se préoccupe de lui, est encore vivant de nos jours. Prenons donc pleinement conscience de cet appel de peur de se soumettre au prédicateur de Bonaventure. Quelqu'un se présente-t-il pour annoncer le futur dans le nom du Sauveur? Il faut que cela s'accorde avec Deutéronome, chapitre 18, versets 20 à 22, et vous pouvez noter le chapitre 13, versets 1 à 5. Troisièmement, si un magicien accomplit un signe, disons une guérison ou miracle, employons des tours de magie, cela n'est pas de Dieu, absolument pas. C'est une supercherie. Car qu'a-t-il éclairé? Qu'a-t-il éclairé avec les ténèbres? Car il représente les ténèbres. Et quelle harmonie le Christ trouverait-il dans Baal? 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. Quoi qu'il en soit, voyez-vous, Dieu donne son avis sur la magie dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, où il dresse la liste complète des magiciens et spirites, tous aux appellations les plus fausses et les plus détestables. La version du roi Jacques utilise abominable. De peur que l'on y prenne garde, la répétition est faite trois fois, verset 9 et deux fois, verset 12. Ce n'est pas parce que ces mages volaient le travail d'autrui, mais parce que Dieu est informé de la source démoniaque à l'origine de ces pratiques et il s'oppose à ce que son peuple en soit contaminé. Lévitique chapitre 19, verset 31. Les clients des médiums participant aux séances de table tournante sont les ennemis spirituels de Dieu. Lévitique chapitre 20, verset 6. Car ces domaines provoquent des illusions et sont des leurres pour les adeptes dans l'erreur du refus de se soumettre à Dieu, voués à ces choses immondes et interdites, voisines carrément de la sorcellerie. Notez Deutéronome chapitre 29, verset 29. Alors, heureusement, nos vies ne se déroulent pas sous une théocratie comme dans l'Israël d'autrefois. La population s'en trouverait décimée. Si l'on marche dans la foi et la dépendance du Seigneur notre Dieu, il est inutile de prendre beaucoup connaissance de l'avenir, tel que certains le supposeraient. Tant que Dieu est le seul qui détienne le futur, c'est lui seul qui connaît le futur, il est entre ses mains, afin que nous allions enfin dans la véritable croyance. Et quand ils vous disent « consultez un médium » et « un sorcier qui soupire et murmure », pourquoi ne consulterait-on pas Dieu ? Consulte-t-on les morts de la part des vivants ? La loi et le témoignage, s'ils ne parlent pas ce langage, c'est parce qu'ils ont les yeux fermés. Ésaïe, chapitre 8, versets 19 et 20, et vous pouvez aussi noter le chapitre 45, verset 11. Voyez-vous, si un prophète s'exclame au nom du Seigneur et qu'il exerce des talents de divination, de sorcellerie ou de spiritisme ou une autre forme d'occultisme, il serait immédiatement identifié comme non envoyé par le Très-Haut. Ézéchiel 22, verset 28, Jérémie chapitre 14, verset 14, et chapitre 28, verset 8 et 9, ainsi que Michée, chapitre 3, verset 7. Les authentiques prophètes ne recoururent pas du tout à ces moyens-là, puisque le Tout-Puissant est parfaitement capable d'annoncer sa révélation et d'inspirer celui qu'il choisit. C'est l'une des grandes différences entre la religion d'Israël et le paganisme, cherchant la vérité dans la divination et la sorcellerie. Dieu s'exprima à travers ses annonciateurs par l'Esprit Saint, le rêve et des visions, et non par le spiritisme. Ses rapports avec les occultistes dans le Nouveau Testament, tels la fille devin, qui est expliquée dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 18, la fille devin, et le fameux magicien et faux serviteur Bar-Jésus, pas Jésus-Christ, mais Bar-Jésus, dans Actes, chapitre 13, verset 6 à 11, met donc en évidence que ces idées ne varièrent pas sur le sujet. Nous ne pouvons boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Les faux prophètes reçoivent songes et visions et usent à chaque fois d'artifices. Une boule de cristal, par exemple, le tarot, la planche Ouija, l'astrologie ou les maracafés, et j'en passe. Ce qui justifie que tous ces tests doivent être testés et vérifier. Un seul et unique ne suffit souvent pas. Le faux mage ou faiseur de merveilles est susceptible de passer un ou deux de ceux-ci et puis ensuite de continuer à mentir et de contrefaire. Quatrièmement, on doit également user du test du fruit de vie. Voyez-vous, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament avaient eu des vies troublées et parfois une moralité douteuse, bien que d'apparence irréprochable aux yeux publics. Un réel serviteur du Seigneur devrait marcher dans la lumière de son appel. On voit bien de vrais serviteurs tels que Joseph, tels que Daniel, par exemple. Le meurtre et l'adultère sont à peine triviaux, mais ce qui fit de Daniel, de Joseph, des hommes selon le cœur de Dieu, fut leur honnêteté à dévoiler ses fautes devant son maître et à se repentir. Les faussaires dans le domaine de l'annonciation sont fréquemment rebelles et sont souvent non repentants. Car voyez-vous, il arrive souvent que leur vie, leur moralité paraissent souvent au-dessus de tout reproche. Et le fruit de leur existence renvoie pourtant à la honte. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23 renferme un passage clé. Le Messie y prévient contre ces faux devins qui viennent vers vous en agneau et sont déguisés en loups. Verset 15, le moyen de mieux les cerner, eh bien, vous les identifierez à leurs fruits. C'est dit, expliqué dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 16. Donc, le Seigneur s'étend alors en expliquant les fondements des moissons mauvais fruits, par exemple, hein, parce que, voyez-vous, ces moissons spirituelles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils insistent que un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits et vice-versa. Donc, en définitive, chers amis, le plus grand nombre de personnes ne vont pas au-delà de ces versets. Non, non, non. Vous les connaîtrez donc par leurs fruits. Verset 20. Je répète. Vous les identifierez, est-il dit, à leurs fruits, selon Saint Matthieu chapitre 7, verset 16. Et le Seigneur s'étend alors en expliquant les fondements des moissons spirituelles, insistant qu'un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits et vice-versa. En définitive, le plus grand nombre de personnes ne vont pas au-delà de ces versets et vous les connaîtrez donc par le fruit, nous est-il dit dans le verset 20, toujours de Saint Matthieu, chapitre 7. Il n'y a pas une seule personne qui me dise « Seigneur, Seigneur » qui n'entrera dans le royaume des cieux, mais seul celui qui accomplit la volonté de mon Père y entrera. Beaucoup me disent en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons, et en ton nom fait des miracles? Et alors je leur déclarerai, je ne vous connais pas, de part de moi, eh bien, vous qui avez pratiqué toutes ces bassesses, eh bien, éloignez-vous de moi. arrière de moi. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Il n'était donc pas assez pour ceux se prémunissant du nom du Seigneur de prophétiser et de chasser les démons ou d'accomplir plusieurs miracles. Le fruit de leur vie proprement ne représentait absolument rien. Les œuvres justes ne suffisent absolument pas pour atteindre le ciel. Ils lui dirent donc, que devrions-nous faire afin que nous réalisions les œuvres de Dieu? Et le Christ a répondu en ces termes, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Saint Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Donc le fruit de la doctrine donne sa valeur éternelle au fruit de vie. Et sans intimité avec Jésus-Christ et votre Sauveur et Seigneur, notre Seigneur donc, eh bien, les fruits de la vie sont absolument sans aucune signification. Et cinquièmement, le test final, c'est notre témoignage interne. J'ai bien évoqué le besoin désespérant et interne au corps de construire sur des objectifs solides qui sont basés sur l'Écriture sainte, car il en ressort clairement que la pureté de ces termes révèle à travers le Père, le Fils, notre guide. Et par ces mots, il nous enrichit. Mais l'on arrive finalement devant le Très-Haut dans l'intimité personnelle où l'on sent son amour et sa tendre compassion à notre égard, et l'on devine alors qu'il y a la joie et la sérénité intense en sa présence et qui sera et qui s'exprimera dans nos vies. Voyez-vous? Alors la finalité de notre parcours sur la terre, c'est d'aimer et de savoir de le connaître. Ça vaut la peine de revoir ce passage. Le test final, c'est donc notre témoignage interne, très important. Et j'ai évoqué le besoin désespérant et interne au corps de construire sur des objectifs solides qui sont basés sur l'Écriture sainte. Car il en ressort clairement que la pureté de ces termes révèle à travers le Père, le Fils, notre guide absolu. Et par ces mots, il nous enrichit. Mais l'on arrive finalement devant le Très-Haut dans l'intimité personnelle où l'on sent son amour et sa tendre compassion à notre égard. Et l'on devine alors qu'il y a la joie, qu'il y a la sérénité intense en sa présence, en sa sainte présence qui se reflète dans nos vies. Et la finalité de notre parcours sur la terre est d'aimer et de savoir, de le connaître, lui, Jésus-Christ. Marchons alors dans l'amitié du Seigneur, venons de le découvrir. Son Saint-Esprit témoigne en nous de toutes ces choses. Mais si l'on a blessé cet Esprit Saint par le péché et par la désobéissance, ces sentiments ressentis dans notre for intérieur se voilent et se distendent, c'est-à-dire vont pas pouvoir effectuer quoi que ce soit de positif, et l'on ne voit plus, et l'on n'entend plus. Et alors notre témoignage intérieur il n'a plus autant de pureté, impossible. Alors voyez-vous, le Sauveur, il a dit que si un homme, une femme, veut faire sa volonté, la volonté du Seigneur, il devra avoir connaissance des paroles de Dieu ou de celles qu'il a prononcées. Saint Jean chapitre 7, verset 17. J'ai pris ce verset dans une version allemande, mais je ne pense pas que la version française soit beaucoup différente. Alors si l'on souhaite réellement découvrir la vérité et que l'on veut y obéir, je pense sincèrement que Dieu nous facilitera la tâche. Chers amis, nous terminons donc pour le moment cette troisième partie de notre étude Griffes de velours. Et je voudrais vous donner quelques paroles avant que nous terminions par la prière. Et souvent nous pouvons recevoir des idées, des mots, une pensée, surtout si nous nous appliquons à sonder les Saintes Écritures sérieusement de toute notre âme et de tout notre cœur. Alors, ces paroles sont donc les suivantes. Ô bienheureuse demeure de la cité céleste, jour éclatant de l'éternité, que la nuit n'obscurcit jamais et que la vérité souveraine éclaire perpétuellement de ses rayons, jour immuable de joie et de repos, que nulle vicissitude ne trouble. Jésus-Christ, lui, de son amour pour les saints dans son éternelle splendeur. Mais nous, voyageurs sur la terre, nous ne le voyons que de loin, comme à travers un voile. Les citoyens du ciel en connaissent les délices, mais les fils d'Ève, encore exilés, gémissent sur l'amertume et l'ennui de la vie présente. Les jours d'ici-bas sont courts et mauvais, pleins de douleurs et d'angoisses. L'homme est souillé de beaucoup de péchés, engagé dans beaucoup de passions, agité par mille craintes, embarrassé de mille soins, emporté ça et là par la curiosité, séduit par une foule de chimères, environné d'erreurs, brisé de travaux, accablé de tentations, énervé de délices et tourmenté par la pauvreté. Oh, quand viendra la fin de ces maux? Quand serai-je délivré de la misérable servitude des vices? Quand me souviendrai-je, Seigneur, de toi seul? Quand goûterai-je en toi une pleine joie? Quand, dégagé de toute entrave, jouirai-je d'une véritable liberté, désormais exempt de toute peine et du corps et de l'esprit? Quand posséderai-je une paix solide, assurée, inaltérable, paix au-dedans et au-dehors, paix affermie de toutes parts? Ô mon Sauveur et Seigneur, quand me sera-t-il donné de te voir, de contempler toi seul la gloire de ton règne? Quand me seras-tu tout et en toute chose? Quand serai-je avec toi dans le royaume que que tu as préparé de toute éternité à tes élus. J'ai été délaissé, pauvre exilé, en une terre ennemie, où il y a guerre continuelle et de grandes infortunes. Console, Seigneur, mon exil. Adoucis l'angoisse de mon cœur, car il soupire après toi de toute l'ardeur de ses désirs, car tout ce que le monde m'offre ici-bas pour me consoler me pèse. Viens donc, Seigneur, et délivre-moi. Nous allons, chers amis, prier maintenant ensemble. Seigneur Dieu, tout-puissant, miséricordieux et fidèle dans toutes tes promesses, toi qui as donné l'assurance de ton secours à tous ceux qui t'implorent avec foi, jette sur nous ton regard paternel. Voici l'heure du recueillement et du repos. Le mouvement de la vie va cesser autour de nous. Nous allons suspendre le cours de notre activité et de nos préoccupations et nous trouver séparés pour quelques heures des objets qui captivent pendant la journée notre attention et trop souvent nos cœurs. Ce temps de solitude et de calme nous rapprochera-t-il de toi, Seigneur? Nous endormirons-nous dans le sentiment de ta présence et de ta protection, ou nos esprits continueront-ils à se nourrir des choses du monde? Nos pensées seront-elles des pensées de foi, de pureté, de paix et d'espérance, ou des pensées de vanité, de péché, de trouble et de crainte? Si nous nous approchons de toi sincèrement et du fond de nos âmes, tu t'approcheras de nous, ta puissance gardera nos corps et nos esprits, ta bonté nous donnera la conviction que soit que nous dormons, soit que nous veillons, nous sommes avec toi et que personne ne saurait nous ravir de ta main. Mais si notre prière n'est que des lèvres, si nos genoux fléchissent sans que notre cœur soit touché, alors nous demeurerons esclaves du péché et l'ennemi de nos âmes exercera sur nous son funeste empire. Dans cette alternative, quel sera notre choix? Tu le sais, Seigneur, daigne bénir et fortifier ceux qui te prient et te cherchent avec sincérité. Daigne avoir pitié des autres et sauve-les par la frayeur comme les arrachant du feu, ou bien fais pénétrer dans leur cœur un rayon de la vérité et de ton amour qui les éclaire et les porte à la repentance. Que ta paix soit sur tous et avec tous. Donne-nous ton assistance pour faire le compte de nos voies et l'examen de notre conscience. Que nous ne nous abusions pas nous-mêmes et que nous reconnaissions toutes nos infractions à ta sainte loi, que nous en puissions, par ta grâce, éprouver une véritable douleur, afin de chercher en Jésus-Christ seul, ton Fils adorable, le pardon et l'assurance de notre salut. Seigneur, nous te prions pour nos parents et nos amis, pour les malades, les affligés. Accorde-leur toutes les grâces que nous venons d'implorer pour nous-mêmes et sois, oh oui, sois avec eux comme avec nous. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous montrez, que vous avez pour ces études, pas toujours faciles à comprendre, mais vous pouvez facilement réécouter une étude que à la première écoute n'a pas été totalement comprise. À bientôt donc, mes chers amis, à demain, la quatrième partie sur le thème « Les esprits mauvais existent » et le titre « Griffes de velours ». À bientôt, au revoir mes très chers amis.